Petites histoires des sciences.
Bonjour, nous sommes à Florence autour des années 1600. Nous suivons les pérégrinations d'un des plus grands physiciens de l'histoire, Galilée. Et nous cherchons en particulier à identifier l'influence de l'art dans son œuvre scientifique. Après nous être un peu promenés dans la ville et découvert son espace, je vous propose qu'on remonte un peu dans le temps pour identifier les mouvements artistiques qu'a connu la ville. Nous allons voir que Galilée s'inscrit dans la droite lignée intellectuelle des artistes florentins. Chapitre 2, l'école florentine et son rapport à la nature. C'est autour de 1400 que la rupture avec l'art gothique et un retour à l'Antiquité se fait. Ce mouvement, qu'on appellera plus tard Renaissance, est le plus visible à Florence. Le vent nouveau se manifeste d'abord avec la sculpture. Donatello répond à des commandes aussi bien pour l'église que pour de nombreuses guildes, il exécute ainsi plusieurs statues qui ornent encore la ville. Dans la cathédrale de Lor San Michele, en plein centre-ville, des statues de Donatello ainsi que d'autres sculpteurs florentins illustrent ce passage du gothique à la Renaissance. Citons par exemple la statue en bronze Judith et Holoferne, commandée par Côme de Médicis. Cette statue est une métaphore des règles des Médicis comme défenseur de la liberté florentine, semblable à Judith, défenderesse du peuple, tueuse du tyran Holoferne. Citons également le fameux David, statue grandeur nature en bronze, représentant le héros foulant au pied la tête de Goliath et tenant la fronde avec laquelle il l'a frappé. Ce premier nu monumental de la Renaissance peut se comprendre comme une tentative de fondre deux figures héroïques chrétiennes et antiques, de David et Mercure. Rencontrons maintenant Masaccio, actif au début du XVe siècle. Il prône un art qui, par son dessin et ses couleurs, se revendique être une contrefaçon de la nature. L'œil de l'artiste peintre est d'abord celui de l'observateur de la nature. Il s'intéresse au mouvement des personnages et leur donne un certain relief, chose nouvelle dans la peinture. Aux édifices, il leur donne du relief par les jeux d'ombre et les lignes fuyantes que Brunelleschi venait de théoriser. Nous en parlerons dans un prochain chapitre. Côté peinture, l'école florentine du XVIe siècle est reconnue, non pas pour la qualité de ses coloris ou de sa science de la perspective, mais davantage pour la vraisemblance des proportions des corps et de son imitation de la nature. Deux pionniers de cet art habitent Florence avant que les Galilées n'arrivent. Léonard de Vinci, dans la deuxième moitié du XVe siècle, et Michel-Ange, qui est un peu plus jeune que Léonard, mais qui vivra près de 90 ans. Tous deux, autant philosophes que peintres, ont recherché dans leur art des causes permanentes et les lois immuables de la nature. Jusqu'à ses 30 ans, Léonard de Vinci vit à Florence, puis il part 17 années au service du duc de Milan avant de revenir quelques années, de 1499 à 1506, à Florence, et puis il va repartir encore à Milan. Léonard de Vinci fait partie des artistes de son époque dits polymathes. Il maîtrise plusieurs disciplines comme la sculpture, le dessin, la musique et la peinture qu'il place au sommet des arts. Léonard se lance dans une minutieuse étude de la nature et de l'expression humaine. Une image doit représenter la personne, mais aussi les intentions de son esprit. On verra que Galilée sera lui aussi empreint de cet esprit polymathe, soucieux d'observer la nature le plus méticuleusement possible. Michel-Ange vit la plupart de sa vie à Florence, entrecoupé de passages à Bologne ou Rome. Son talent exceptionnel pour le dessin, la peinture ou la sculpture font qu'on le surnomme le Dante des Beaux-Arts. Porté sur un savoir panégyrique, Michel-Ange est parfois plus anatomiste que peintre. On fera le même reproche à Dante, qu'on disait parfois plus théologien que poète. La deuxième moitié du XVIe siècle est moins riche en grands noms de peintres. On imite les grands maîtres, mais on ne les dépasse pas. Citons Giorgio Vasari, qui sera le fondateur de l'Académie du dessin, école d'art et technique florentine, où on retrouvera Ostilio Ricci comme professeur, celui-là même qui initia Galilée aux mathématiques. Ainsi se termine ce chapitre sur l'école florentine et son rapport à la nature. Prochain volet, nous nous intéresserons à Brunelleschi, architecte de Florence, qui coiffera la cathédrale de son majestueux dôme. Vous retrouverez l'ensemble des références bibliographiques et musicales sur le site Petites Histoires des Sciences, mais aussi des peintures et œuvres d'art évoquées dans ce chapitre. À bientôt !